France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Inès Bouffartig, Sébastien, Fanny Richer, Barthélémy Gaillard et Pénélope Lemoguen, réalisée par Vivian Le Cuivre, et à la technique ce matin, c'est Élise Leu. C'est le deuxième volet de notre série consacrée aux transformations de la nation ukrainienne 4 ans après l'invasion russe du 24 février 2022. Nous évoquions hier le rapport des citoyens à leur État, dont ils compensent les fragilités et qu'ils se sentent en retour légitimes à critiquer. Aujourd'hui, du front à l'arrière, restez solidaires.
Nous vivons au 16e étage, dans l'immeuble d'à côté. Il faisait extrêmement froid et sans ascenseur, c'était très dur. Alors nous venons ici, dans cette superbe tente chauffée. Cela fait plus d'une semaine tous les jours. Mon enfant adore cet endroit.
Voilà, c'est le camion qui va partir à Lviv et après à Kharkiv. C'est notre rôle d'organiser tout ça parce qu'on est le moins touché, on est privilégié et donc il faut...
Tous ceux qui sont ici sont des volontaires qui viennent tous les jours. Bien sûr, à cause de la guerre, beaucoup de gens ont perdu leur emploi. Donc ils viennent ici en tant que bénévoles, parce qu'au moins, ils peuvent avoir de quoi manger. Dans cette pièce, il y a de la nourriture pour bébés, des jus qui sont triés, emballés, prêts à être envoyés là où il y a de la demande. Ce stock de nourriture a été vidé et rempli de nombreuses fois ces dernières semaines. Rien que la nuit dernière, c'était rempli jusqu'au plafond.
Prendre en charge les plus vulnérables est un devoir que l'on se fait en temps de guerre. Mais qui en Ukraine aujourd'hui ne l'est pas vulnérable? Entre le froid glacial, polaire, moins 20 degrés pendant de longs jours et de longues nuits, ce froid qui fiche d'abord les pieds avant de monter à la poitrine et jusqu'à la tête. Les Russes le savent et suivent la météo comme on profite d'une fenêtre de tir. Il y a aussi le perpétuel tonnerre polyphonique des bombardements qui continuent à chasser les gens au creux de la nuit au moment du sommeil. Et toutes ces blessures de guerre, les plus de 40 000 amputations, les soldats revenus du front qui promènent leurs manches vides, leurs bras d'ombre. En Ukraine, la guerre a percuté une situation sociale déjà fragile. Un tiers de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté d'après l'ONU. Et sur le front comme à l'arrière, le personnel soignant continue à donner le change, mais il est à bout de force. De la même façon que nous racontions hier, la façon dont la société compense les failles de l'État par des initiatives spontanées, en particulier pour défendre de leur pays face à l'armée russe. Elle donne aussi beaucoup pour soigner les autres, soldats sur le front ou civils blessés, et dessine peut-être une voie différente des systèmes de santé qui existent au sein de l'Union européenne, les injonctions d'efficacité et de rendement, la privatisation des services à la personne et tout ce que les bailleurs de fonds internationaux aujourd'hui lui prescrivent. C'est une question que vous soulevez dans un texte récent. Yulia Choukan, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous depuis Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Vous êtes sociologue, directrice d'études à l'EHESS, rattachée au Centre d'études russes, caucasiennes, est-européennes et centre-asiatiques. Et vous avez écrit l'année dernière, Yulia Choukan, « Citoyenne soignante » au pluriel, « Guerre, femme et fabrique du commun en Ukraine » aux éditions La Maison des Sciences de l'Homme. Nous sommes également depuis Kiev avec Tetiana Ogarkova. Bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous et bienvenue. Vous êtes journaliste et politiste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Vous êtes co-autrice avec le philosophe Volodymyr Yermolenko de l'ouvrage « La vie à la lisière » qui a paru la semaine dernière chez Gallimard. Une tentative de reportage philosophique, comme vous le présentez, nourrit des voyages que vous faites depuis 2022 dans les territoires libérés ou les territoires proches du front, le nord, l'est, le sud de l'Ukraine, pour apporter des véhicules aux militaires et des livres aux civils. Alors vous êtes toutes les deux en Ukraine, Lviv pour l'une, Kiev pour l'autre, où les températures ce matin sont redevenues celles d'un hiver, disons, normal. Il fait 3 degrés à peu près en ce moment, après des semaines très éprouvantes. Comment la solidarité, Tetiana Ogarkova, s'est-elle exprimée, s'est-elle déployée de ce que vous en avez vu lors de ces très longues journées et ces très longues nuits glaciales?
Évidemment, voilà, cet hiver était un hiver exceptionnel, extrêmement beau, extrêmement froid. Et justement, il était aussi exceptionnel parce que les frappes de l'armée russe contre notre infrastructure énergétique étaient massives, ponctuelles et très méthodiques. Donc, la tentative génocidaire qui concernait les populations civiles était très claire. Donc, je m'arrête une petite seconde sur le fait que la guerre actuellement de la Russie contre l'Ukraine, elle a changé un peu de nature parce que ce n'est plus uniquement une guerre sur la ligne du front, c'est une guerre totale qui vise faire tomber les arrières. De la manière que l'armée russe essaye de détruire la vie en tant que telle à Kiev et dans d'autres grandes villes, même très loin de la ligne du front, c'est pour justement faire tomber les arrières, faire tomber le système économique, d'où en fait la nécessité, l'urgence en fait de cette résistance et de cette solidarité que vous évoquiez pour la population, pour qu'on puisse tenir. Évidemment, tout le quotidien a été transformé, puisque pour les habitants de Kiev, évidemment, Kiev était une des cibles favoris de ces frappes, donc la situation était proche de la catastrophe humanitaire. Puisque justement, pendant de longs jours, il y avait des coupures d'électricité extrêmement longues. Il y a une semaine, on avait droit à 2 heures d'électricité par jour, c'est-à-dire sur 24. Et donc, plus d'un millier d'immeubles à la capitale sont privés, toujours privés de chauffage, et ceci jusqu'à la fin de l'hiver, jusqu'à printemps, jusqu'à que les travaux de réparation puissent avoir lieu. Alors, nous avons vu évidemment plusieurs tentatives de s'organiser, parce que comment on fait, et s'il n'y a pas de chauffage, s'il n'y a pas d'électricité, toutes les écoles, en tout cas dans notre arrondissement, ont été transformées en points d'invincibilité. C'est comme ça qu'on appelle des points où on peut charger son téléphone, se réchauffer, boire un thé, passer du temps, pas la nuit, mais voilà, toutes les écoles. Les wagons de notre opérateur national de Ukrzaliznytsa, les chemins ferrés, ont été aussi transformés en ces points d'invincibilité. Il y a 2 wagons à moins d'un kilomètre de chez moi. Il y a 2 wagons de ce type où justement il y a des gens qui puissent venir. Et après, évidemment, il y a tout le réseau de solidarité informelle qui se met en place. On a plusieurs amis, pour la plupart les femmes, avec les enfants, parce qu'avec les enfants, évidemment, la vie est beaucoup plus difficile quand il fait froid, qui ont été invités à rejoindre les amis, la famille, ou surtout les amis, à l'ouest de l'Ukraine, dans les conditions plus favorables. Donc, plusieurs personnes ont pu quitter la capitale pour passer que 2-3 semaines dans les conditions plus normales.
Pour les autres, pour ceux et celles qui ont dû rester dans la capitale, la municipalité avait installé donc ce que vous appelez, ou ce qu'elle appelle, des points d'invincibilité. Et il y en a d'ailleurs partout en Ukraine, dans des lieux dédiés, ça peut être des supermarchés, des mairies, des écoles. Je crois que l'école de vos enfants, Tetiana Ogarkova, a été transformée en point d'invincibilité. En tout cas, à partir de 15h, chacune peut s'y rendre, qui voudrait boire quelque chose de chaud ou simplement avoir un petit peu de compagnie. Les points d'invincibilité à destination des civils, distincts des points de stabilisation pour les militaires, Yulia Shukan, ces unités sanitaires d'urgence qui se trouvent sur le front ou tout près. Est-ce que vous avez eu des échos de la façon dont ces points ont continué à fonctionner et dans quelles conditions ces dernières semaines, avec le froid, avec les coupures de courant?
Ce sont des points de stabilisation, effectivement, que nous, en France, on connaît de par l'expérience de la Première ou la Seconde Guerre mondiale sous le nom de postes de chirurgie mobile. Donc il s'agit de points aménagés dans des locaux disposés très proches de la ligne de front. Ça peut être des sous-sols de bâtiments, des écoles. Et donc ce sont des postes de prise en charge chirurgicale d'urgence des blessés. Il s'agit de points qui essayent de fonctionner en autonomie, en sachant que près de la ligne de front, la consigne en tout cas qui est donnée et l'engagement que l'État essaie de tenir, c'est d'avoir toujours l'électricité sur place pour assurer le fonctionnement de à la fois la vie des populations, mais aussi le fonctionnement des infrastructures. Et pour tout ce qui est point de chirurgie mobile, en fait, ils fonctionnent en autonomie avec les générateurs qui leur permettent de fonctionner en continu. Et l'idée ici, précisément, est de résister, quelles que soient les conditions météorologiques ou encore les conditions de combat, c'est de prodiguer des gestes de soins médicaux d'urgence afin de sauver le maximum de vies. Malgré en fait cette autonomie, tous les dispositifs déployés précisément autour de ces points de chirurgicaux, ils sont constamment visés par les bombardements russes, puisqu'il s'agit de faire encore plus de victimes, non seulement de blesser déjà les personnes, mais de causer la mort, et donc de viser, malgré les règles de la guerre qui existent en droit international, de viser ces points d'aide, d'aide médicale. Donc. Et je pense que ces points d'aide aussi nous montrent précisément les solidarités qui se mettent en place. Il y a un projet transnational qui relie la France à l'Ukraine, de personne en personne et de chaîne en chaîne, en fait, et qui met en place des conteneurs blindés pour protéger ces points de chirurgie mobile, le projet Stabnet. Et donc, c'est à l'image de ces solidarités qui font tenir, à la fois qui font tenir les Ukrainiens par le déploiement de l'action publique, par les solidarités des sociétés civiles, mais aussi par les solidarités familiales ou interpersonnelles évoquées par Tatiana.
Et ces points d'invincibilité pour lesquels la France a fait don de conteneurs, qui sont d'ailleurs assez mobiles, qui peuvent être enterrés pour les protéger des bombardements russes, ils continuent néanmoins à être visés, ces points où sont prodigués des soins d'urgence aux combattants avant qu'ils ne soient évacués par train jusqu'aux hôpitaux.
Les communications sont mauvaises avec la ligne de front. On ne sait pas dans quel état va arriver le blessé. Il a peut-être un membre arraché.
Je n'avais jamais été confronté à des blessures si graves. Au début, j'en avais même la boule au ventre. J'avais envie de pleurer parfois. Mais il faut se ressaisir. Être capable de prendre les choses en main et soigner les blessés pour qu'ils puissent retrouver leur famille en vie.
Extrait d'un reportage de France 24 en septembre 2024 à l'époque. Donc c'était près de la ville de Prokhovsk qui a finalement été reprise agglomération par agglomération par l'armée russe très récemment après des mois intenses de contre-offensive de l'armée ukrainienne. Comment tient ce système de santé ukrainien, Yulia Choukan, après 4 ans de guerre totale?
Ce système tient parce qu'il s'appuie déjà sur l'expérience intérieure. Et il faut le rappeler que la guerre pour les Ukrainiens a commencé en 2014. Et c'est déjà en 2014 que le système de soins a dû précisément affronter ce défi de soins, soins médicaux à un grand nombre de blessés qui affluent dans des espaces de temps très, très, très resserrés. Et je pense qu'à la fois du point de vue de la chirurgie, du point de vue de la gestion de la logistique, de l'organisation donc de cette circulation des blessés à travers le pays, l'Ukraine s'est beaucoup appuyée sur l'expérience intérieure, en sachant qu'aujourd'hui, ce système, il interconnecte aussi les hôpitaux militaires avec les hôpitaux civils. Et donc, en blessé, par exemple, sur le front, est pris en charge donc dans ces points de stabilisation médicale, chirurgicale, envoyé ensuite dans des hôpitaux, soit un hôpital militaire près de la ligne de front, et ensuite envoyé par cette précisément chaîne d'évacuation vers les hôpitaux civils ou encore des centres de réadaptation physique où ils sont pris en charge. Et donc certes, le système est sous tension, les personnels sont épuisés, traitent un grand nombre de blessés, même si on n'a pas les statistiques, mais on voit effectivement dans les rues même de différentes villes d'Ukraine la présence de ces soldats blessés. Mais le système tient, et le système tient aussi grâce à ces solidarités individuelle, mais aussi associative. J'ai moi-même travaillé en 2014 et jusqu'à aujourd'hui, en fait, avec une de ces initiatives à Kharkiv, à l'hôpital militaire, où des femmes se dévouent aux soins des blessés, collectent de dons, redistribuent un certain nombre de matériaux, et notamment aussi matériaux médicaux, équipements médicaux, pour aider le système public à tenir, parce que je pense qu'il faut le dire, face à l'ampleur de cette guerre, aucun système public n'est capable de tenir tout seul. Et donc, l'importance des solidarités, elle est cruciale.
C'est vrai qu'on n'est plus, en 2022, on était déjà plus, dans ce moment crucial de la grande invasion par la Russie de l'Ukraine, on n'était plus dans ces années précédentes de guerre dans les régions de Donetsk et Louhansk, avec un système de santé des armées qui était totalement démuni, avec des logistiques d'évacuation médicale qui n'existaient que sur le papier, des kits de premiers soins insuffisants, des fournitures médicales en pénurie. Le pays a beaucoup appris de ces années précédentes de guerre. Tetiana Ogarkova, vous vouliez, depuis Kiev, ajouter quelque chose
Oui, justement, donc à part cette partie très importante du système médical qui est la médecine de guerre, il y a la médecine générale qui existe, et donc point d'interrogation, comment est-ce que tout le système continue à travailler, parce qu'il y a aussi la population civile, il y a des personnes âgées, il y a les enfants qui sont en train de naître dans les maternités, donc etc., etc. Donc je peux témoigner que justement, il m'est arrivé à plusieurs reprises de voir, par exemple, des militaires d'aller que, par exemple, auprès de cabinet d'un médecin, et donc ils sont toujours prioritaires, donc il n'y a aucune question qui rentre en premier, même sans avoir un rendez-vous, par exemple. Donc il y a cette solidarité-là qui met en avant justement la cause militaire, parce qu'un militaire, ce n'est pas uniquement des blessures, il peut avoir les problèmes de cœur, les problèmes de dents, les problèmes de la grippe et tout le reste. Et donc j'ai vu justement à quel point cette solidarité marche. Et après, voilà, le système médical, malgré la guerre, on peut dire qu'il est pas du tout défaillant, qu'il y a énormément d'exemples où les cliniques, tant les cliniques d'État que les cliniques privées fonctionnent. Avec des générateurs, ont été très agréablement surpris que l'heure des coupures, en fait, les hôpitaux font partie de ces objets prioritaires, donc ils ont très peu de coupures, ou presque pas du tout de coupures d'électricité, et donc les ambulances, etc. Donc le système continue à marcher, les enfants continuent de naître dans les maternités, qui sont très nombreuses même à la capitale de Kiev. Il y a tout un protocole qui est mis en place, par exemple, pour descendre justement des patients dans les sous-sols en cas d'alerte aérienne. Et malheureusement, il est déjà arrivé d'avoir cette expérience où l'armée russe frappe d'une manière délibérée les hôpitaux aussi.
Il y a, pour ceux qui sont aujourd'hui pris en charge dans les hôpitaux, une situation différente de ceux qui sont toujours sous les bombardements russes ou dans les régions les plus exposées. Je pense à cette femme dont vous parlez dans votre livre, Tetiana Ogarkova, une femme qui s'occupe de sa mère de 99 ans, alitée dans un appartement aux fenêtres barricadées de contreplaqué à quelques kilomètres seulement des positions ennemies, et dont cette aidante, puisqu'il y a aussi ceux et celles qui sont auprès de ceux qui ne peuvent pas quitter ces endroits bombardés. Il ne reste plus qu'à s'accrocher à la pensée que cette dame fêtera ses 100 ans et que l'ennemi finira par reculer. Pour les autres, pour ceux qui font l'objet aujourd'hui de blessures de guerre, Yulia Choukan, comment est pris en charge les blessés de guerre, ceux qui sont les plus atteints dans leur chair par les bombardements et par les armes ?
Il y a d'abord tout ce système d'évacuation des blessés qui a été mis en place dès 2022, et une fois de plus, j'insiste, c'est vraiment une imbrication entre l'action publique et l'action citoyenne. Cette évacuation se fait aujourd'hui par train. En Ukraine, il est impossible d'évacuer par hélicoptère, et les trains ont été aménagés par des bénévoles engagés donc dans les hôpitaux militaires depuis 2014. Et ensuite, tout le système médical, tant militaire que civil, voilà, accueille les blessés. De plus, un certain nombre de programmes développés en Ukraine en amont de 2022. Je vais prendre cet exemple de l'amputation de guerre sur laquelle je travaille. Il existe une prise en charge étatique extrêmement conséquente en Ukraine, mise en place depuis 2016, et qui permet précisément aux militaires, beaucoup plus d'ailleurs qu'aux civils, de bénéficier d'une prise en charge très conséquente et surtout des compensations financières importantes pour accéder à des prothèses de grande qualité et pour pouvoir les prendre en main, avoir le temps de se reconstruire soi-même et de reconstruire son corps pour retourner ensuite à la vie civile ou retourner dans les rangs, puisqu'il y en a qui, après cette prise en charge, qui est longue en fait, c'est une prise en charge longue, lourde pour le budget de l'État, qui dure jusqu'à un an, mais ensuite pouvoir soit retourner sur le front, et c'est souvent le souhait des blessés de guerre, des soldats qui sont formés en tant que soldats et dont l'identité de combattant s'est déjà forgée, soit d'essayer de trouver sa place avec tout un système aussi d'appui qui existe pour ce retour à la vie civile qui n'est pas facile.
Pour ces blessés de guerre, les niveaux de compensation sont, vous le disiez, importants, de l'ordre de 90 000 euros, je crois, pris en charge pour une prothèse de jambe, par exemple. Encore faut-il que les familles concernées sachent ce à quoi elles ont droit et fassent jouer ce droit-là. Alors, elles vivent dans l'ouest de l'Ukraine où vous êtes, Yulia Choukan. Un centre pour les blessés les plus graves, c'est ainsi qu'il se présente, a ouvert en 2023. Centre que ses fondateurs ont baptisé Superhumans, et qu'a visité ici pour sa chaîne YouTube l'Ukrainien Oleksandr Terenbutko, un animateur ancien soldat qui a lui-même perdu ses deux jambes dans un bombardement.
Bonjour à tous, je m'appelle Oleksandr Teren et je suis aujourd'hui à Lviv. Chaque fois que je viens ici, mes nouvelles jambes me conduisent à cet endroit. Enfilez donc vos costumes de super-héros et vos couvre-chaussures. Bienvenue chez les super-humains, c'est parti. Je souhaite à chacun d'entre vous de ne jamais avoir à venir dans ce centre, sauf dans le cadre d'une visite guidée. Mais si vous devez y venir, sachez qu'il s'agit du centre le plus moderne en matière de prothèses, de chirurgie reconstructive, de rééducation et de soutien psychologique, et que la principale valeur de cette institution, ce sont les personnes.
Superhuman, cette clinique dans la banlieue de Lviv qui dispose de prothèses de très haute technologie, qui fonctionne aussi avec des fonds étrangers. Yulia Shukan, quelles places ont prises, y compris visuellement, dans les rues, les blessures de guerre, le handicap, les amputations, dont on a peu de, d'ailleurs, de, sur lesquelles on a peu de données. Le gouvernement ukrainien ne communique ni sur les morts ni sur les blessés de guerre, mais les fabricants de prothèses avancent des chiffres. Qu'est-ce que visuellement cela change en Ukraine et dans le rapport des Ukrainiens avec le handicap et les blessures de guerre?
Je pense que les Ukrainiens vivent en fait une sorte de socialisation à grande vitesse à l'altérité corporelle, précisément parce que dans toutes les grandes villes, qu'il s'agisse de Kiev, où il y a d'autres centres de réadaptation physique et psychologique, ou encore de Lviv, où il y a Superhumans, mais il y a aussi d'autres établissements de pointe, on voit énormément de blessés qui, au printemps ou plutôt en été, lorsque c'est plus facile de se déplacer, investissent les rues, donc quittent les hôpitaux pour avoir un tout petit peu et bénéficier un tout petit peu des joies de la vie, profiter de la ville, socialiser. Et donc à cet égard, les Ukrainiens et Ukrainiennes sont en permanence confrontés en fait à cette altérité corporelle, voient les soldats. Reconnaissent bien évidemment leur sacrifice et apprennent aussi à vivre avec ces soldats et soldates dont le corps a été durablement abîmé. Et l'émission que vous avez évoquée, émission donc animée sur la chaîne YouTube par Oleksandr Teren, elle nous montre aussi comment les vétérans eux-mêmes contribuent aussi donc à cette socialisation et font preuve d'agentivité, puisque Oleksandr a l'habitude de visiter les différents lieux, à Lviv, mais aussi il y a d'autres émissions où il se rend dans les grandes villes ukrainiennes, et il montre à quel point en fait la société doit encore avancer en termes d'inclusion des espaces publics et de sensibilité précisément aux diverses formes de handicap qu'ont subi les combattants ou encore les civils blessés. Et les autorités s'investissent beaucoup. À Lviv, par exemple, sur la place centrale, donc Lviv est une ville assez ancienne, les pavés ont été remplacés pour réduire l'espacement entre les pavés et pour permettre aux fauteuils roulants d'avancer plus facilement. Les accès sont souvent aménagés, notamment tout ce qui est établissement public sont aujourd'hui aménagés, disposent de ces rampes d'accès pour les fauteuils roulants ou encore pour des personnes qui ont du mal à se déplacer avec prothèse. Mais il reste encore beaucoup à faire. Et on voit à quel point cette agentivité des personnes concernées elle est également importante, précisément, parfois pour pousser un peu plus et inciter encore plus les autorités à faire des efforts.
Il y a aussi toutes ces personnes qui ont été brûlées, parfois dévisagées par l'explosion de leur matériel si elles sont militaires, ou encore torturées au couteau s'ils ont été prisonniers en Russie. Si ce sont des civils, ils ont plus souvent une partie du visage ou du corps brûlé lors d'un bombardement quand ils en ont réchappé. Il y a un programme qui s'appelle Unburn en Ukraine, porté aujourd'hui par une trentaine de cliniques à travers tout le pays. Alors, à l'époque d'un reportage de Faustine Vincent dans Le Monde, plus de 350 patients en avaient bénéficié, dont 80% de militaires. Il s'agit vraiment de chirurgie réparatrice pour que l'on s'habitue. Dans ce reportage, les gens disaient, même quand on me voit dans la rue, les gens ne comprennent pas que c'est une trace de la guerre. On imagine qu'il m'est arrivé une maladie ou que je me suis battue. Est-ce qu'à ce sujet, Tetiana Ogarkova, la ville de Kiev s'y est aussi habituée en quelque sorte?
Oui, en effet, on voit quand même beaucoup de personnes, qu'il s'agit des amputés, qu'il s'agit des brûlures, pas dans toutes les saisons. C'est vrai qu'en hiver, les gens passent pas beaucoup de temps dehors, donc on verra, mais on voit ça souvent dans le métro, par exemple. Et donc, je voudrais quand même souligner une nuance, donc parce que l'urgence du problème de la prise en charge de la réhabilitation, de l'intégration de ce groupe en fait de personnes handicapées par la guerre, parce que il s'agit dans la plupart du temps de gens très jeunes. Je vous donne un exemple personnel. Nous étions en contact avec un jeune homme. Il s'appelle Volodymyr. Il avait 28 ans au moment de sa grave blessure. C'était en 2023. Il participait à la contre-offensive. Il a perdu la totalité de son bras droit et de sa jambe gauche, c'est-à-dire deux amputations en même temps pour une personne aussi jeune. Il était pris en charge par l'État ukrainien. Il était aussi envoyé, c'est important, la solidarité internationale en France pour des soins de 4 mois. Il était de retour. Nous avons fait connaissance dans le contexte aussi de la solidarité parce que ses amis militaires nous ont demandé de lui aider et de lui fournir une voiture. Nous livrons des voitures pour l'armée ukrainienne. Nous avons fait une exception pour faire la collecte de dons et livrer une voiture avec une boîte automatique pour le rendre plus mobile. Et donc nous sommes rendus dans son village. Il faut aussi savoir que lui, il a grandi dans une famille sans parents, c'est-à-dire il n'avait que sa grand-mère et son grand-père, des personnes très âgées. Donc c'est-à-dire la situation familiale était très précaire. Et donc voilà. Et donc tout de suite, il était pris en charge. L'État lui fournit un appartement, en fait un demi-maison duplex dans la région de Kiev. Et donc on a vu déjà tout le respect que ce jeune homme suscitait dans les passants dans la rue, c'est-à-dire on a passé une petite heure avec lui quand on lui donnait la voiture, et donc on a vu comment chaque passant le saluait avec quel respect, c'est-à-dire que ça, évidemment ça lui faisait, on peut imaginer, beaucoup de bien, et donc il était pris en charge par l'État, il a déménagé ensuite à Kiev, il se retrouvait à notre emploi. Et donc c'est plutôt un exemple positif parce que un jeune homme aujourd'hui il devrait avoir 29 ou 30 ans et donc il a toute sa vie devant lui et donc c'est très bien que les personnes qui ont souffert le pire puissent réintégrer et continuer leur vie au sein de la société.
À l'inverse, vous citez dans votre livre un habitant d'Izioum, vous souvenez avec d'autres, certains de ses anciens voisins, d'un jeune homme qui refusa de sortir des décombres après l'explosion de son immeuble parce que l'explosion lui avait arraché le visage. Il savait qu'il ne pourrait plus jamais ni parler ni manger. Il n'en est jamais sorti. On parle aujourd'hui de toutes ces infrastructures, des lieux et du temps aussi consacré aux personnes, entre guillemets, les plus vulnérables. Mais qui sont les personnes les plus vulnérables aujourd'hui en Ukraine, Tetiana Ougarkova? Dans quelle mesure cette distinction entre personnes vulnérables et les autres qui ne le seraient pas a encore du sens?
Je dirais qu'il n'y a pas vraiment des personnes qui ne seraient pas vulnérables d'une manière ou d'une autre en Ukraine, parce que les frappes, ça peut arriver partout, même à Lviv, à Ivano-Frankivsk, donc les explosions, évidemment l'appauvrissement de la population, donc les problèmes économiques, ça peut toucher tout aussi tout le monde, mais évidemment dans cette, il y a quand même une hiérarchie de malheur, et donc je dirais évidemment que les gens âgés, donc les personnes âgées qui sont à la retraite et qui n'ont pas de la famille, des enfants ou des petits-enfants qui puissent aider, ils sont évidemment les plus vulnérables et sont pour la plupart ceux et celles que nous constatons près de la ligne du front, dans les villages très exposés au bombardement et qui ne nous quittent pas parce qu'ils ont peur de ne pas être suffisamment pris en charge et parce qu'ils préfèrent rester là où ils sont, parce que leurs ressources financières ne le permettent pas de partir à l'étranger, etc., etc., parce que la mobilité réduite aussi avec l'âge. Et évidemment, une autre catégorie très importante, les familles avec enfants, surtout les femmes, avec les enfants en bas âge, c'est-à-dire les femmes dont les maris sont au front, ou bien les maris leur ont quitté, ou autre cas de figure. Mais les femmes avec 2 ou 3 enfants, évidemment, sans aide, c'est extrêmement vulnérable, étant donné qu'il faut travailler, il faut prendre soin des enfants, il faut pouvoir se déplacer rapidement, et s'il faut, donc s'il y a un danger imminent, c'est extrêmement dur. Et donc ces catégories-là qu'il faudrait évidemment protéger davantage.
Qu'en est-il de l'accompagnement à plus long terme, Yulia Shukan? Ce sont toujours les familles où, essentiellement qui prennent en charge ceux et celles qui ont besoin d'un accompagnement plus long, qu'ils aient été blessés, qu'ils aient été traumatisés aussi, puisqu'on n'a pas encore évoqué, mais la question de la santé mentale, de la culture thérapeutique qui n'existerait pas en Ukraine, ou très peu, c'est ce que vous écrivez dans un article récent.
Je pense que oui, bien sûr, la famille, elle porte toujours cette charge de, d'accompagnement, d'aide, d'assistance en fait au corps blessé ou au corps fragile. Et je voudrais juste aussi revenir sur cette question de vulnérabilité, parce que je pense que du point de vue de l'action publique, la façon dont l'État voit en temps de guerre les vulnérabilités, bien évidemment, la priorité est donnée aux combattants. En temps de guerre, les soldats, c'est ce qui compte, c'est ce qui permet de se défendre dans cette guerre existentielle, en fait, et qui vise la nation tout entière. Mais dans le même temps, il y a des formes d'action publique, précisément déployées vers d'autres catégories. Tétiana a évoqué les personnes âgées qui restent près de la ligne de front, refusent de partir. Mais dans le même temps, à leur destination, existent des programmes d'évacuation où on voit précisément aussi à la fois des formes d'assistance étatique. Ces personnes peuvent être déplacées de leur lieu. On leur cherche, en coopération avec la société civile, des lieux d'accueil dans des régions éloignées de la zone de front, et ensuite d'autres établissements qui les accueilleront peut-être à l'ouest de l'Ukraine. Et donc des formes d'aide publique existent, mais la famille, bien sûr, porte une grande charge. La famille porte cette charge lorsqu'il s'agit d'une blessure. La famille porte cette charge lorsqu'il s'agit d'initier cette démarche d'évacuation, par exemple, si la personne accepte de partir. La famille, et surtout les femmes, puisque les hommes sont en grande majorité au front, ce sont les femmes dans les familles qui vont porter aussi ce soin. C'est quelque chose d'assez traditionnel si on regarde cette division genrée du travail. Mais on sait qu'en temps de guerre, dans la famille, c'est précisément les femmes qui apportent soin, et que la situation des femmes est particulièrement aussi vulnérabilisée, fragilisée dans ce contexte de guerre. Et pour ce qui est de la prise en charge psychologique, si je peux juste finir là-dessus, à la fois, il y a des formes d'assistance disponible. Il y a des nouveaux programmes que l'Ukraine a mis en place à partir de 2022. Mais la grande difficulté du point de vue de l'assistance psychologique, c'est aussi cette perception, en fait, qui est héritée de l'Union soviétique, des faiblesses psychologiques et des problèmes psychologiques comme étant quelque chose de maladif, d'anormal. Et la psychologie étant souvent associée aussi à la psychiatrie répressive soviétique. Donc ce qui fait qu'il y a d'énormes besoins en termes de santé mentale, tant pour les militaires que pour les civils, mais que les choses changent, les gens vont de plus en plus et demandent donc de l'assistance, mais dans le même temps, il y a une résistance, et je le vois beaucoup en travaillant avec les combattants en situation de après amputation, alors qu'il y a besoin pour la reconstruction de soins d'assistance psychologique, il y a des formes de résistance, de déni, d'évitement précisément de ces aides.
La guerre nous arrache à ce qui fut toujours auprès de nous, à ce qui fut toujours nous. Je vous cite Tetiana Ogarkova. Elle nous laisse seul à seul avec des petits débris de nous-mêmes, car nous ne sommes pas nous-mêmes sans la couleur de nos murs, sans les fissures dans l'asphalte de notre cour d'immeuble, sans le grincement des balançoires sur l'aire de jeu pour enfants. Nous ne sommes pas nous-mêmes sans le regard de la voisine qui sourit toujours en voyant nos enfants. Ceux qui ont quitté leur ville lui écrivent des lettres d'amour, la cherchent dans les actualités, la taguent sur les réseaux sociaux, l'invitent à se voir en rêve. C'est ce que vous racontez aussi, ces familles, ces habitants, ces communautés qui se déchirent. Certains quittent les villes menacées par l'armée russe, d'autres restent. Qu'est-ce qui est aujourd'hui pris en charge par l'État, et qu'est-ce qui relève toujours vraiment d'une solidarité, ces liens de confiance, c'est un mot qui apparaît souvent dans vos écrits, entre les Ukrainiens?
Oui, en effet, les blessures de cette guerre, elles sont très souvent invisibles. C'est-à-dire que quand vous marchez dans la rue de Kiev ou n'importe quelle autre ville, vous pouvez ne pas voir, en fait, dans les âmes des hommes et des femmes que vous croisez, en fait, tout ce qu'ils ont vécu. Et parce que, voilà, donc ils peuvent avoir l'air tout à fait normal, mais comme Yula disait tout à l'heure, donc on peut jamais savoir. Et c'est-à-dire que les choses que les gens ont traversées, ils ont peut-être besoin de l'aide psychologique. Voilà, pour les catégories vulnérables, j'ajouterais aussi, pensons à ceux qui ont quelqu'un qui est porté disparu, ou bien qui est en captivité russe. Et parfois, il y a des cas où des membres de la famille sont en captivité russe, militaire et civil aussi, et civil, depuis 3 ou 4 ans, depuis tout le début de la grande invasion russe. Vous pouvez imaginer comment cette peine, comment ce chagrin et travail toute la famille de l'intérieur, de vivre dans l'inconnu. Donc voilà, de l'extérieur, tout peut aller super bien, mais en fait, c'est un chagrin dont on n'a pas le nom, en fait. On a rencontré dans nos voyages des gens qui ont traversé ce malheur de ne pas pouvoir retrouver le corps de quelqu'un de sa famille, civil par exemple, et militaire aussi. Et qu'est-ce que ça représente que de pas pouvoir avoir la tombe même, le lieu de deuil, le lieu de commémoration, et puis d'être condamné à vivre sans avoir revu pour la dernière fois quelqu'un de sa famille. Voilà. Donc tout ceci est extrêmement important. Et donc évidemment, il y a, quand les gens partent, sont obligés de partir de territoires menacés ou qui sont déjà sous le bombardement, il y a des programmes d'État qui sont là. Il y a des, et ceci d'ailleurs d'une manière systématique depuis 2015, il y a des wagons, des mobile homes, comme on appelle ça, qui accueillent des réfugiés. C'est le cas de base. Et évidemment, il y a le programme étatique qui aide aux familles d'acheter avec un taux très bas, en fait, crédit très favorable pour acheter d'autres appartements si vous avez des preuves que votre domicile a été détruit. Donc évidemment, c'est jamais suffisant. Nous connaissons aussi la peine de ceux et celles qui cherchent toujours un appartement, qui cherchent toujours du travail. Donc rien n'est parfait dans cette prise en charge, mais il y a à la fois un effort d'État et un effort de plusieurs initiatives de la société, qui soit caritative, qui soit privée, qui essaie de mettre les populations vulnérables à l'abri.
Donc il y a ce programme dont vous parliez qui s'appelle Il y a un hébergement. C'est un programme mis en place par l'État pour faciliter l'achat de logements par des personnes qui ont perdu le leur. Mais on constate que la faiblesse, par ailleurs, en Ukraine des minima sociaux empêche la plupart des Ukrainiens d'avoir accès à un crédit. Cette question sociale plus large d'Ukrainiens qui touchaient aussi des minima sociaux ou des pensions de retraite et qui vivaient avant 2022 dans des villes ou des régions désormais contrôlées par l'armée russe, dont les revenus sont plus difficilement assurés aujourd'hui. Il en est de même, oui, pour la prise en charge des pensions de retraite. Yulia Choukhan, est-ce que les Ukrainiens et Ukrainiennes ont conscience, et là je parle vraiment de la société ukrainienne, de dessiner là, par toutes ces initiatives de solidarité mises en place dont vous nous avez parlé l'une et l'autre, de dessiner un modèle de soins relativement quand même différent de ce qui existe en Europe de l'Ouest, où on a privatisé les services à la personne, où les hôpitaux sont rémunérés selon des logiques libérales et où le personnel est tout aussi épuisé, mais dans un contexte de paix, pour d'autres raisons. Est-ce que cela transparaît dans les entretiens que vous donnez, construire un autre modèle ?
Je ne sais pas si c'est très réfléchi, mais je pense que les Ukrainiennes et les Ukrainiens savent à quel point leur société fonctionne de façon horizontale et tient en solidarité dans un système où l'État précisément peut être affaibli. Affaibli en temps de paix parce que l'État est jeune et que les institutions se mettent en place, ou affaibli parce qu'il y a cette guerre depuis 2014 et surtout il y a cette invasion militaire à grande échelle qui bien évidemment met sous tension tous les appareils étatiques. Et les Ukrainiens et Ukrainiennes savent précisément prendre soin, s'organiser, s'auto-organiser, venir en aide. On l'a vu, Tatiana l'a évoqué pendant cet hiver, comment les voisins en fait, se constituaient en communauté pour venir en aide aux plus fragiles qui habitaient dans leurs propres immeubles. On voit ces associations qui existent depuis 2014 déjà et qui portent un modèle de soins au sens où qui pensent et défendre cette idée qu'il faut prendre en charge les personnes les plus vulnérables et leur fournir un certain nombre de prestations, qu'il faut aussi trouver des formes de récompenses précisément pour niveler toutes ces différentes expériences que la société vit, puisque bien évidemment, tout le monde souffre dans cette guerre, mais quand on est à Kiev ou à Lviv, quand on est à Kharkiv, les expériences peuvent être différentes, ou quand on est encore dans l'UE en tant qu'exilé, il y a de la douleur et de la rupture de la vie d'avant, mais il y a des différences d'expériences, et je pense que c'est que par le son, par ces solidarités, le lien entre civils, militaires, entre veuves et femmes donc, dont les maris rentrent des fronts, donc femmes de vétérans, entre familles de portée de disparus et familles ayant quand même retrouvé, au retour de captivité, leurs hommes. En fait, toutes ces formes de solidarité doivent circuler pour permettre de refaire la société. Et je pense que les Ukrainiennes et les Ukrainiens le savent. Peut-être pas... C'est pas articulé de façon... très clair au niveau du discours, mais en tout cas, c'est clairement articulé et visible quand on fait de la recherche sur la société ukrainienne du point de vue des pratiques et de la façon dont les Ukrainiens incarnent et effectivement développent ces formes de soins.
Donc un soin qui est maintenu par ces initiatives de solidarité. On peut citer à Kiev, quand la rive gauche est abîmée par les attaques sur les infrastructures énergétiques, les habitants de la rive droite accueillent leurs voisins de la rive d'en face. Bien sûr, dans le détail, c'est plus compliqué que ça. Tout le monde n'y est pas prêt, mais c'est ce qu'on peut raconter, entendre dans les témoignages. Les familles à l'est de l'Ukraine aussi qui proposent des offres d'hébergement régulièrement sur des sites pour dire à celles et ceux qui ont dû quitter la ville bombardée par l'armée russe qu'ils pouvaient trouver un toit chez eux ou chez elles. Les associations étrangères aussi, notamment françaises, qui essayent d'aider, certaines ne sont pas très connues, pour l'Ukraine, pour leur liberté. La nôtre, Kalina, Safe, le comité d'aide médicale. En tout cas, il y a toutes ces initiatives. Mais l'État ukrainien, lui, dans les différents budgets votés chaque année depuis 2022, je ne sais pas si c'est vraiment toujours le cas dans le détail, mais la Rada, en tout cas le Parlement, continue à assurer sa mission législative. Est-ce que les services de santé, le système hospitalier, tout ce qui peut contribuer à cette solidarité, fait l'objet d'un financement à la hauteur? Yulia Choukan ou Tetiana Ogarko. Oui, allez-y, je vous en prie.
Je peux effectivement commencer. L'État ukrainien est conscient qu'il faut, mais déjà en temps de guerre, donc au moment où les combats font encore rage, commencer à financer et bien évidemment à récompenser, trouver des formes de récompense. Et si vous regardez, l'État ukrainien, malgré la guerre et l'intensité de la guerre, continue à financer l'ensemble des services publics, y compris les services de santé, même si, bien sûr, si on regarde après l'expérience des personnels médicaux, leur vie est sous tension, dans le sens où il y a une augmentation, une explosion du nombre de blessés, et donc une explosion de besoins, alors que les personnels sont surchargés, et parfois il y a un manque de personnel aussi, puisque les salaires que l'État garantit ne sont pas souvent très conséquents lorsqu'on descend notamment dans cette hiérarchie de profession médicale. Mais dans le même temps, je pense qu'il ne faut pas oublier que l'État ukrainien est en guerre, et l'État ukrainien doit faire des arbitrages en ce moment, le principal arbitrage étant de se défendre. Et donc le budget nécessairement de la défense est extrêmement important, effectivement, et conséquent, mais le budget alloué aux soins, aux diverses formes de soins, c'est pas nécessairement uniquement le système de santé, mais des formes de récompense précisément aux personnes victimes de la violence armée sont très très conséquents si on le regarde point par point et politique publique par politique publique.
En Ukraine, du front à l'arrière, restez solidaires. C'est le deuxième épisode de notre série consacrée à la nation ukrainienne transformée par la guerre, transformée jusque dans ses liens intimes et familiaux, car la guerre a aussi séparé des gens qui s'aimaient, elle a fait diminuer les naissances déjà peu nombreuses et elle a accéléré en réponse certaines réformes sociétales.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
L'amour ne connaît pas de frontières. Et en Ukraine, le mariage non plus. Découvrez le mariage en ligne sur DIA, un service numérique révolutionnaire qui permet aux couples de se dire oui en quelques clics. Pas de bureaucratie, pas de délai, juste l'amour, propulsé par la technologie.
L'amour propulsé par la technologie, le slogan publicitaire de la nouvelle fonction de l'application DIA, une plateforme qui propose des dizaines de démarches administratives en ligne, passeport, permis de conduire, acte de naissance et désormais le mariage. C'est l'une des réformes engagées par le gouvernement à la fois pour encourager la natalité, mais aussi récompenser en quelque sorte les familles dont le conjoint se bat sur le front. Bonjour Colline Maestrachi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse associée au CERSEC, le Centre d'études russes, caucasiennes, est-européennes et centre-asiatiques de l'EHESS. Vous êtes chargée de cours à l'Université libre de Bruxelles et vous travaillez en ce moment spécifiquement sur la façon dont la guerre transforme les liens familiaux. D'abord, comment est-ce qu'on demande numériquement son conjoint ou sa conjointe en mariage sur DIA ?
Alors, effectivement, vous pouvez faire une demande en mariage sur DIA et donc la personne que vous demandez en mariage reçoit une notification sur son téléphone. Et pour ce qui est du mariage à proprement parler, en fait, vous déposez une demande sur cette application. Et ensuite, l'application fait une vérification administrative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnel derrière cette derrière cette application, c'est l'application elle-même qui fait des vérifications, c'est-à-dire elle vérifie que vous n'êtes pas déjà marié, elle vérifie votre situation administrative, et puis le cas échéant valide votre demande de mariage. Et alors là, en fait, vous avez une cérémonie virtuelle avec un représentant de l'administration de l'État et donc les deux conjoints qui sont par visio sur un même écran. Et donc c'est une courte cérémonie, mais qui a pour but de peut-être créer un semblant de réalité dans ce mariage virtuel.
Le mariage virtuel qui est possible depuis la première année de la grande invasion russe. Est-ce qu'on sait combien de couples se sont officiellement unis depuis via DIA et combien ont peut-être aussi divorcé en ligne, s'il est possible de divorcer en ligne ?
Alors oui, c'est possible, effectivement. Le divorce est une des procédures qui est proposée dans cette application. Le ministère de la Transformation numérique estime qu'il y a à peu près 40 000 personnes qui se sont mariées en ligne depuis la création de ce service.
Alors, deux personnes de même sexe feraient une demande en mariage en ligne, qu'elles se verraient de toute façon opposer un refus dans les 24 heures. Où en sont, Colline Maestrachi, les débats sur la question, là, en 2026, que devient la proposition déposée en 2023 par une députée, non pas d'un mariage, mais d'une union civile pour les couples homosexuels. D'ailleurs, quelle est la différence entre mariage et union civile dans la façon dont cette députée l'a présentée ?
Alors effectivement, le débat sur le mariage entre personnes du même sexe est en fait un débat qui existe depuis longtemps en Ukraine, dans la société ukrainienne, mais avec la guerre qui a acquis une nouvelle dimension. C'est-à-dire que depuis 2014, on a un certain nombre de vétérans hommes et femmes qui se sont constitués en association pour faire évoluer ce cadre législatif. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'argumentation qu'ils présentent pour défendre l'évolution de ce cadre législatif. C'est-à-dire que eux estiment que, en tant que citoyens ukrainiens ayant pris part à la défense de l'Ukraine, ils ont accompli leur devoir de citoyen, accompli leur devoir de défenseur de la patrie, et que donc, à ce titre-là, ils sont légitimes à demander les mêmes droits que des combattants hétérosexuels. Donc en fait, le plaidoyer autour de l'ouverture de ces droits, effectivement, a acquis une nouvelle dimension dans le contexte de la guerre, et depuis 2022, il y a vraiment, effectivement, eu un accélérateur par rapport à cette question. D'abord, dans la société, on voit que les sondages en fait montrent une population ukrainienne à plus de 50% favorable à la création d'une union entre personnes de même sexe, et puis aussi des mesures symboliques assez concrètes, puisque Volodymyr Zelensky s'est prononcé en faveur de la création de cette union, et que effectivement récemment une cohabitation entre personnes de même sexe a été reconnue par un tribunal, et puis effectivement cette députée qui a proposé donc un projet d'union, mais dont le contenu n'est toujours pas très clair, et on voit que quand même malgré ce dépôt donc de projet de loi en 2023, cette loi n'a toujours pas abouti, mais en tout cas une évolution quand même majeure dans le contexte poussé, je dirais, par le contexte de la guerre.
La guerre en Ukraine a également posé la question de la procréation post-mortem, c'est ainsi qu'on la nomme en Ukraine. Alors il était déjà possible avant la guerre de faire congeler des cellules reproductives. Comment est-ce que la guerre a fait évoluer le cadre légal sur cette question ?
Oui, alors il y a deux dimensions dans les mesures récentes qui ont été prises par l'État ukrainien. D'abord, des mesures qui concernent l'ensemble de la population et qui visent donc à faciliter le poids des procédures administratives dans un quotidien qui est rythmé par la guerre. Donc c'est effectivement le cas du mariage digital dont on parlait tout à l'heure. Et puis, il y a un volet de mesures qui est spécifiquement dédié aux combattants, et c'est le cas de la procréation. Donc depuis 2023, l'État a instauré la gratuité de la cryopréservation des cellules reproductives pour les combattants et les combattantes. C'est-à-dire que on sait que l'expérience du front provoque un certain nombre de problèmes de fertilité, que ce soit lié aux blessures, au stress, etc. Et donc, pour anticiper ces problèmes, les combattants et les combattantes peuvent se rendre dans une clinique de fertilité et faire congeler les cellules reproductives aux frais du gouvernement ukrainien. Et puis, en fait, s'est posé la question assez rapidement, finalement, de savoir quoi faire de ces cellules reproductives si les personnes venaient à mourir sur le front. Le président Zelensky avait d'abord annoncé qu'il fallait détruire ces cellules reproductives. Et puis face en fait à une levée de boucliers au sein de la population, la loi a été amendée récemment. Et aujourd'hui, les cellules sont préservées gratuitement pendant 3 ans après la mort de la personne et peuvent être utilisées par la conjointe si un consentement a été signé. Et c'est donc en fait d'une certaine façon une légalisation de la procréation post-mortem.
Donc l'homme doit avoir donné son consentement avant de mourir pour que son épouse puisse utiliser son sperme congelé et fonder une famille. Une femme disait à Julien Bouissou pour le journal Le Monde qu'elle voulait mettre au monde des enfants qui grandiraient dans une Ukraine libre, parce que c'était pour ça que son mari s'était battu et qu'il en était mort sur le front. Est-ce qu'il y a déjà, Colin Maestrachi, des bébés nés post-mortem ? Est-ce que ce sont des naissances dont on parle quand elles ont lieu ou qui restent quand même dans l'intimité d'une clinique ?
Oui, il y a quelques cas qui sont médiatisés. Alors, c'est vrai que tout ce cadre législatif autour de la procréation est assez récent et donc on manque de recul. Il faudra voir comment les Ukrainiens et les Ukrainiennes s'emparent de ces questions. Mais en tout cas, je crois que c'est vraiment important de voir la façon dont ces questions sont présentées dans le débat public. C'est-à-dire qu'il y a évidemment, ces lois sont passées au nom de questions très pratiques, c'est-à-dire l'inquiétude des personnes de ne pas pouvoir avoir accès à la procréation une fois le retour à la vie civile. Il y a aussi une dimension symbolique de compensation dont vous parliez tout à l'heure avec vos invités, c'est-à-dire une députée qui disait devant le Parlement « les combattants défendent notre futur et pourraient bien être privés du leur ». Donc l'idée de passer ce cadre, de faire évoluer ce cadre législatif est une façon de proposer aux combattants une compensation symbolique par rapport à l'effort de guerre, a fortiori dans un contexte où ce sont beaucoup de civils qui sont engagés. Mais plus généralement, c'est important de comprendre qu'il y a un enjeu autour de la démographie en Ukraine aujourd'hui, puisque en fait, avec l'exil ou en tout cas le départ de millions d'Ukrainiens en dehors des frontières de l'Ukraine, le nombre de morts qui n'a de cesse d'augmenter en Ukraine, en fait, l'Ukraine est aujourd'hui dans une situation démographique qui est extrêmement compliquée. Et ce que disent plusieurs médecins, c'est que faire évoluer ce cadre législatif et puis utiliser ces procédures est presque finalement un acte patriotique, un acte de résistance dans un contexte où l'armée russe affirme la volonté de détruire l'Ukraine et le peuple ukrainien. Donc il y a vraiment dans cette évolution du cadre législatif aussi une dimension très symbolique et patriotique en fait vis-à-vis de l'avenir démocratique de l'Ukraine qui est mis en danger.
Donc dans un pays dont le taux de fécondité est négatif, c'est toujours bizarre de parler en virgule quand on parle de bébé, mais le taux de fécondité est de 0,7 enfants par femme aujourd'hui en Ukraine, donc également compensé par des naissances, toutes ces morts sur le front, anticipées aussi pour le futur, avec toujours la Russie, non pas en ligne de mire, mais voilà, dans les esprits de tous. L'Ukraine se pose aussi en miroir inversé de la Russie sur des questions sociétales, le met aussi en avant comme de questions de valeurs.
Oui, tout à fait. Par exemple, un très bon exemple, c'est la question justement du projet d'union entre partenaires du même sexe. La députée du Parlement ukrainien qui a déposé cette loi a argumenté en disant que l'homophobie était un reliquat finalement de l'influence du monde russe sur l'Ukraine et que donc en fait, pour se construire en miroir inversé, il fallait se débarrasser finalement de ce reliquat et donc aller de l'avant. Et donc cette légalisation du mariage entre personnes de même sexe en fait partie.
Merci beaucoup Colin Maestrachi, chercheuse associée au CERSEC de l'EHESS, chargée de cours à l'Université libre de Bruxelles. Votre thèse de doctorat en sciences politiques porte sur les trajectoires d'engagement et de désengagement des combattants de la guerre du Donbass, mais en ce moment vous étudiez ces liens familiaux qui évoluent en Ukraine et les politiques aussi qui les accompagnent. Je remercie beaucoup nos invités Yulia Shukan et Tetiana Ogarkova qui étaient respectivement avec nous depuis Lviv dans l'ouest de l'Ukraine et à Kiev, la capitale. Yulia Shukan, son dernier livre s'appelle « Citoyenne soignante, guerre, femme et fabrique du commun en Ukraine » paru aux éditions La Maison des sciences de l'homme. Quant à Tetiana Ogarkova, elle vient de faire paraître avec Volodymyr Yarmolenko une sorte de reportage philosophique, comme ils disent, « La vie à la lisière » paru la semaine dernière chez Gallimard, qui parle de tous leurs voyages faits depuis 2022 dans les territoires libérés au proche du front. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
France Culture. La revue de presse internationale, Catherine Dutu.
Et 4 ans jour pour jour après cette invasion de l'Ukraine par la Russie, plusieurs pays européens voisins de la Russie se préparent à d'éventuelles attaques du Kremlin, Catherine.
Sur le plan militaire, ce n'est pas à exclure, alerte le magazine américain Foreign Policy, mais aussi dans le cadre de la guerre hybride que mène Moscou contre l'Occident. Sabotage, cyberattaque, désinformation, envoi de drones dans l'espace aérien des pays de l'OTAN, dans l'Arctique aussi, avec des appareils adaptés au froid extrême, énumère le média polonais Defense 24 et le journal américain Defense News. Si bien que pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, interrogé par la BBC, les choses sont claires, Vladimir Poutine a déclenché la 3e guerre mondiale et il faut l'arrêter. L'Estonie, qui fait partie des pays baltes en première ligne face à la Russie, rappelle le magazine Foreign Policy, l'Estonie a acheté 600 bunkers mobiles en béton et elle commence à les installer le long de sa frontière orientale, indique Defense News et le média estonien Delfi. Sans compter des fossés anti-chars, ajoute la radio-télévision publique estonienne ERR dans le cadre d'une ligne de défense conjointe de la Baltique avec la Lettonie et la Lituanie. La Lituanie qui envisage aussi d'acquérir des drones longue portée et des missiles de croisière ukrainiens, comme l'a déclaré le chef d'état-major lituanien dans un entretien au journal Die Welt en Allemagne, là encore, des instruments de dissuasion face à la Russie qui accentue, elle, la pression dans la région, alerte le Financial Times.
Des images satellites montrent l'accroissement des activités sur les bases russes proches du flanc est de l'OTAN d'ailleurs.
De nouveaux bâtiments de stockage ont fait leur apparition à Petrozavodsk, à 175 km de la frontière finlandaise, tandis que des zones ont été défrichées et un nouveau tarmac a été aménagé pour des avions sur une ancienne base désaffectée à une centaine de kilomètres à l'est de la Norvège, précise le Financial Times. Face à cette menace russe, la Pologne réplique par un armement record, titre le quotidien Rzeczpospolita, avec 640 milliards de zloty dépensés, soit 150 milliards d'euros pour des avions F-35, des chars Abrams notamment. La Pologne investit massivement dans la défense, confirme Foreign Policy, avec 4,5% de son PIB consacré aux dépenses militaires. Et puis, pour renforcer le bouclier oriental, un programme cherchant à sécuriser les frontières de la Pologne avec la Biélorussie et avec l'enclave russe de Kaliningrad, Varsovie va reprendre, pour la première fois depuis la fin de la guerre froide, la production de mines antipersonnelles pour les positionner le long de sa frontière orientale, annonce le quotidien Gazeta Prawna. La Pologne, les 3 pays baltes et la Finlande qui se sont retirés du traité d'Ottawa interdisant ces mines antipersonnelles, rappelle Foreign Policy. La Pologne se dote ainsi d'un outil supplémentaire pour retarder d'éventuels mouvements russes. Mais pour Amnesty International, ces armes obsolètes représentent un risque humanitaire car les mines antipersonnelles ne font aucune distinction entre soldats et civils, enfants et adultes, entre guerre et paix.
Enfin, Catherine, un journal indien fait le long portrait d'une enseignante en Inde qui vient d'être récompensée pour son travail dans les bidonvilles.
Pour avoir transformé les murs gris et délabrés des bidonvilles en salle de classe à ciel ouvert, salue le Times of India. Et pour cela, cette enseignante et artiste, Rubal Nagi, vient de recevoir le prix mondial de l'enseignement assorti $1 million, explique India Today, une récompense en collaboration avec l'UNESCO. La BBC nous emmène à Mumbai, à Bombay, dans une ruelle étroite qui débouche sur un terrain parsemé de petites cabines en béton où les blanchisseurs nettoie et sèche le linge de la ville. Tout autour, des baraques aux couleurs vives, rouges, bleus, verts et jaunes, qui s'empilent les unes sur les autres comme les pièces d'un Tetris bancal. Au cœur de ce labyrinthe, décrit la BBC, se niche un petit centre d'apprentissage qui propose des cours gratuits de maths et de langue. L'un des 800 lieux d'accueil de la Rubal Nagi Art Foundation qui aide des communautés marginalisées en Inde. Tout a commencé lorsqu'un garçon est entré dans l'atelier de Rubal Nagi. La jeune artiste a alors appris que cet enfant n'avait pas les moyens d'aller à l'école dans le bidonville où il vivait. Elle a ensuite visité son quartier, proposant de l'embellir avec des peintures murales.
She asked a question no one else did. What if the walls could teach? So she picked up a brush and started painting.
Elle a posé une question que personne d'autre n'avait posée. Et si les murs pouvaient servir de lieu d'apprentissage? Alors, Rebel Nagy a pris un pinceau et elle s'est mise à peindre les murs gris des bidonvilles, les transformant en fresques colorées, où sont enseignés l'alphabet, les sciences, l'histoire, explique The Better India. Des enfants qui n'avaient jamais mis les pieds à l'école ont commencé à apprendre en levant les yeux juste devant leur maison. Depuis, Rebel Nagy a créé plus de 800 centres d'apprentissage à travers l'Inde. Elle a aidé à rénover plus de 150 000 habitations dans les bidonvilles. Une question de dignité, d'espoir pour les jeunes générations, souligne The Better India. Si vous avez la moindre question sur cette chronique, sur l'actualité internationale, je vous rappelle l'adresse pour m'écrire fcrdpi@radiofrance.com. Un WIN spécialiste vous répondra dans la revue de presse interactive du samedi.
Merci beaucoup Catherine Dutu.